Bruno Périnet, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France en cet an de grâce 2022.
Moi aussi Olivier, ravi aussi, ravi chers auditeurs de vous retrouver en cette belle année 2022 qui commence avec de nombreuses grâces que le Seigneur a certainement déjà données que nous voyons peut-être pas encore.
Eh ben, une petite grâce que je vous donne de la part de toute l'équipe et certainement aussi de nos auditeurs, une sainte et priante année 2022 Bruno Périnet.
Merci, avec plaisir évidemment. Si elle est sainte, alors elle sera réussie.
C'est ça, on n'a pas le choix. Bon, je vous en prie, de quoi allez-vous nous entretenir ce soir?
Alors, plusieurs sujets ce soir sur Maria Torta, nous qui sommes passionnés, ou peut-être les auditeurs qui découvrent ou qui veulent en savoir plus. D'abord, un petit point sur les conférences passées en France, rapide. Ensuite, puisque vous savez qu'il y a plusieurs conférenciers qui tournent un peu partout dans le pays, que vous pouvez rencontrer, qui vous parleront de l'œuvre, qui vous lèveront les questions, les objections peut-être que vous avez. Ensuite, un extrait d'une super belle nouveauté, à savoir l'adaptation de l'œuvre de Maria Torta en bande dessinée, que vous connaissez peut-être. Je vais vous raconter 4 pages de cette magnifique belle bande dessinée. Vous allez voir, vous allez en écoutant, j'espère, découvrir, l'imaginer tellement elle est belle et bien écrite. Elle a beaucoup de succès. Après, nous allons parler de la réponse du Centro Editoriale Valtortiano, de la fondation italienne, à nos évêques français, qui, vous le savez peut-être, ont cru bon de rappeler que l'œuvre a été mise à l'index. Évidemment, il y a 70 ans que cette œuvre a été interdite de lecture. Depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et c'est très imprudent de penser qu'elle n'est pas bonne, cette œuvre, parce qu'il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites. On va en parler rapidement. Et effectivement, le clergé, l'ensemble des prélats qui s'intéressent à l'œuvre, eh bien maintenant, ont plutôt un avis positif pour ceux qui la connaissent. Et nous espérons qu'elle continuera son chemin dans l'Église, cette très très belle œuvre. Et enfin, je vous proposerai un thème de l'œuvre de Maria Torta, puisque vous savez qu'il y a les dictionnaires sur les thèmes de Maria Torta qui sortent et qui arrivent maintenant, c'est-à-dire que tout l'enseignement de Jésus a été réorganisé par thème, un peu comme, vous voyez, les évangiles qui ont fait l'objet de catéchisme, hein, d'enseignement théologique sur des thèmes. Eh bien, l'évangile de Maria Torta, c'est-à-dire les évangiles canoniques vus par Maria Torta, car ce n'est pas un autre évangile, mais c'est bien le même qu'elle a vu, eh bien, aussi font l'objet de réorganisation par thème, et on a deux sujets qui seront abordés ce soir, celui de la famille et celui de la sensualité. Et donc, comment Jésus nous enseigne sur ces points, conseille les familles, et évidemment, nous guérit ou tente de nous donner des éléments pour nous guérir de nos tendances sensuelles. Donc, des très beaux sujets parmi les milliers, les 7000 sujets qu'on trouve dans l'œuvre de Maria Torta, d'après ces dictionnaires, vous voyez, qui sont traités, qui nous éclairent sur pour notre sanctification. Hein, Jésus dit d'abord, je le rappelle aux auditeurs, Jésus donne cette œuvre en rappelant qu'il la donne parce qu'il nous voit sombrer et il veut nous sauver. Donc c'est un cadeau. En ce début de troisième millénaire, un cadeau, l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Torta, qu'il ne faut pas mettre de côté, car Dieu l'a voulu, la providence de Dieu l'a donné, eh bien, ça mérite, elle mérite d'être ouverte, d'être lue, car beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se rendent compte que c'est salutaire pour elles. Personnellement, donc, je prends le sujet des conférences, comme annoncé, eh bien, les conférences, nous rencontrons, car je fais partie des 7 conférenciers de l'association Maria Torta, qui tourne partout en France et ailleurs, hein, jusqu'au Canada, Martinique, etc. Eh bien, Italie, prochainement peut-être encore un peu plus loin, rien n'est certain. Et donc, qui disent qu'on rencontre des lecteurs régulièrement qui disent qu'il y a un avant et après la lecture de Maria Torta. Hein, cette œuvre, parfois désintéresse, mais quand elle intéresse, elle change la vie. Elle change la vie, elle sanctifie. Hein. Nous souhaitions en début d'émission une bonne et sainte année à tous les auditeurs. Eh bien, je vous souhaite de lire le de Maria Torta, car c'est un moyen certain de sanctification. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, mais des milliers de lecteurs que nous rencontrons régulièrement au fil de l'eau de ces conférences et au fil de ces parutions, des courriers nombreux que nous recevons, même à la revue Chrétien Magazine, hein. Notre périodique mensuel qui se veut donner des nouvelles de Maria Torta tous les mois aux différents abonnés, à la fois des nouvelles des conférences, à la fois des nouvelles des différents témoignages et conversions éventuelles, et des différentes parutions et nouveautés sur ce sujet. Et donc, il y a un certain nombre de lecteurs, évidemment, qui communiquent par courrier, par mail, et on voit régulièrement des témoignages, évidemment, positifs sur cette œuvre. Donc, je vous souhaite vraiment de vivre tous ces cadeaux-là. Voilà, donc, les dernières conférences, alors, une des séries qui a commencé le début de l'année scolaire, c'était la série qui allait de Lille à Paris, en passant par Merville, Compiègne, Alonne, etc. Donc, un succès, vraiment, hein, jusqu'à 50 personnes par salle, hein, qui étaient contentes de sortir de chez elles, de se retrouver, de prier, de découvrir les dernières nouvelles de Val Torta. Hein. Et la tournée s'est terminée en l'église de Saint-Roch à Paris, hein, avec le séminaire Jésus et le Messie, vous savez, qui est organisé par l'association qui se veut aider, soutenir la conversion des musulmans, avec la prise de parole d'un conférencier sur l'œuvre de Val Torta, donc devant les 250 participants. Voilà, donc ça faisait plusieurs centaines de personnes, hein, peut-être un demi-millier, couverts sur cette série de conférences, d'une dizaine de conférences sur une semaine. Puisque je suis dans le sujet des conférences de Val Torta, ceux qui s'intéressent, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui ont des objections contre l'œuvre, rencontrez les conférenciers. Il y a la semaine prochaine, tenez-vous bien, 20 conférences en France. Je dis bien 20 conférences seulement la semaine prochaine. Hein, dispensées donc à... Alors, pour cela, pour voir le détail, vous tapez sur Internet conférence Main Val Torta, association Main Val Torta. Hein, conférence Main Val Torta, association Main Val Torta, dans les moteurs de recherche, n'importe lequel. Et vous tombez sur la liste. Vous verrez que alors, je dis, voilà, le 8 janvier, ça commence, hein, donc à Castelnaudary, en Aude. C'est Jean-Baptiste Soupou, le conférencier, etc. Ensuite, le 10 janvier, Arnaud Lefebvre, donc à Châteauroux, Indre. Ensuite, à Bergerac, c'est moi-même, Bruno Périnet, qui la donnerait. À Bourges, Limoges, Nevers, le lendemain. Je continue au fil de la semaine juste les villes. Hein, si vous êtes de ces coins-là, de ces départements-là, regardez après sur Internet les dates et les détails pour la conférence qui sont évidemment gratuites. Vous rentrez, vous amenez vos amis, vos familles, votre entourage. Brive-la-Gaillarde, Autun-Saône-sur-Loire, Tulle, Dijon, Aurillac, Chaumont, le Puy-en-Velay, Joinville, Saint-Étienne, Troyes, Clermont-Ferrand, Auxerre, Vichy, Montargis et Moulins. Voilà. Pour rien que pour la semaine prochaine, c'est bien ce que je dis. Voilà. Donc, les participants sont souvent enthousiastes des conférences. Amenez-y vos prêtres. C'est un lieu où on découvre les trésors de cette œuvre. Les conférenciers travaillent parfois plusieurs mois, hein, pour comprendre, pour lever les trésors qui sont inconnus de nos médias actuels. On a un véritable travail de réinformation à faire ensemble. Chers auditeurs, vous-même et nous-mêmes, nous avons un devoir de nous former, nous réinformer. Et la plupart des participants à ces conférences sont enthousiastes car ils reviennent avec des vrais éléments qu'ils n'entendent nulle part ailleurs, malheureusement, et même malheureusement dans de nombreux médias catholiques. Si nous devons le respect le plus profond à notre hiérarchie, à nos prêtres, à nos évêques, d'abord pour le service des sacrements sans lequel nous ne pourrions nous sauver, hein, il faut bien le relever, eh bien nous pouvons, sans manquer à ce respect, aussi leur faire part de ce que nous avons découvert nous, de ce que le Seigneur nous a fait savoir nous, et sur lequel ils peuvent parfois se tromper. Évidemment, l'œuvre de Val Torta, comme elle fait l'objet de publications très négatives, notamment sur Wikipédia, hein, qui rejette régulièrement toutes les corrections qui veulent défendre l'œuvre de Val Torta et qui maintient des vérités, certes, mais contre l'œuvre. Quand je dis des vérités, des témoignages. Par contre, des témoignages qui s'appuient sur des valeurs fausses. Et donc, comme nous pouvons le constater, contrairement nous, avec nos milliers de témoignages dans les conférences. Ces évêques, ces prêtres, vous connaissez le malheureux épisode, hein, de l'année dernière, où la commission doctrinale des évêques de France s'est cru bon de rappeler que l'œuvre avait été mise à l'index de la lecture, ce qui est vrai dans l'Église, elle a été interdite de lecture, mais pourquoi n'a-t-elle pas rappelé les nombreux, nombreux prélats qui, eux, défendaient l'œuvre, qui, eux, conseillent la lecture de l'œuvre? J'en ai cité à différentes émissions ici, je ne vais pas les répéter, vous les trouvez tous de manière exhaustive quasiment, enfin peut-être pas exhaustive pardon, mais nombreux et les plus célèbres dans la revue Chrétien Magazine de novembre 2021, hein, qui est paru justement pour répondre à la commission doctrinale des évêques de France, avec tout le respect qui leur est dû, mais leur apportait des éléments qu'ils n'avaient pas pris en compte. Et donc des personnes tout à fait autorisées dans l'Église, prêtres, évêques et papes, se sont prononcées en faveur de l'œuvre de Valtorta. Voilà. Donc, chers auditeurs, je vous lis maintenant l'extrait de la réponse, comme promis en début d'émission, de la réponse de la fondation héritière de Marie Valtorta, qui communique à l'intention des évêques de France, les religieux et les fidèles. Alors d'abord, la fondation héritière nous fait quatre parties. La première partie, c'est la catholicité de Marie Valtorta, puisque les évêques la mettaient en doute. Marie Valtorta, tertiaire des servites de Marie, fut toujours accompagnée spirituellement par des prêtres, fréquenta assidûment les sacrements et fit preuve d'une profonde obéissance et fidélité à l'Église catholique romaine. C'est sur demande de son directeur spirituel qu'elle écrivit en 1943 son autobiographie. Sa dépouille repose dans la basilique de Santa Annunziata à Florence. Vous vous rendez compte, c'est bien l'Église qui a mis en valeur sa dépouille dans une basilique. Et la messe commémorative du cinquantenaire de la mort fut célébrée par Monseigneur De Nicolo, ancien nonce apostolique et archevêque de Martana. En 2019, un prêtre du vicariat de Rome a commencé le recueil des témoignages sur la vie de Marie Valtorta afin d'établir les preuves de l'exercice héroïque de sa pratique des vertus chrétiennes suite au mandat donné en ce sens par Carlo Fusco, avocat de la Rote et postulateur pour la cause des saints. Voilà où on en est pour la catholicité de Marie Valtorta qui avait été mise en doute par la commission doctrinale des évêques de France. Premier point. Voilà, tout cela, je le lis dans le Chrétien Magazine spécial Valtorta, la revue périodique mensuelle de novembre 2021. Deuxièmement, le contexte de la mise à l'index, c'est-à-dire que les évêques français rappellent que l'œuvre est interdite à la lecture, mais ne nuancent pas. Écoutez bien, le pape Pie XII, après lecture de l'œuvre, a conseillé sa publication le 26 février 1948. Pourquoi nos évêques n'en font-ils pas mention? Toutefois, l'année suivante, cette demande a été entravée par certains membres de Saint-Office qui menacèrent les évêques prêts à signer l'imprimatur, Monseigneur Michele Fontevecchia, Monseigneur Biagio Musto et le cardinal Giuseppe Siri, qui étaient prêts, vous l'entendez bien, à signer l'imprimatur, puis tentèrent de récupérer les originaux pour les faire disparaître. Donc il y a bien eu une cabale contre l'œuvre de Valtorta dans l'Église, au plus haut niveau. 10 ans plus tard, en 1959, juste après le décès du pape Pie XII, ils placèrent alors à l'index les écrits, maintes fois connus sous le titre d'Évangile tel qu'il m'a été révélé, pour raison disciplinaire, tenez-vous bien, canon 1385, défaut d'imprimatur, et non pour erreur dogmatique. Vous voyez bien la distinction, cher lecteur? Quand une œuvre est interdite à la lecture pour l'Église, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise à la lecture. Ça veut dire qu'il y a eu un problème, et le problème, en l'occurrence pour Valtorta, c'est qu'il y a eu un problème de disciplinaire et non dogmatique. Parce que l'éditeur a imprimé l'œuvre sans demander la permission au Saint-Office, qui l'a très mal pris, parce qu'à l'époque, il fallait demander la permission. Alors Saint-Office a dit interdit, parce que vous n'avez pas demandé la permission, et non pas parce que la lecture est mauvaise. Distinction très importante, chers auditeurs. Donc, ces difficultés doivent être placées dans un contexte évidemment largement hostile aux mystiques. Ainsi, ces mêmes membres du Saint-Office attaquèrent à la même époque, et avec des procédés analogues, tenez-vous bien, Sœur Faustine, le père Michel Sopocon, Sœur Yvonne Aimée de Maletroit, Lugina Sinapi, celle-là je ne la connais pas, pardon, c'est une italienne, ou le Padre Pio, qui lui est très connu. Vous vous rendez compte? Alors, ces agissements ont contribué à la suppression de l'index en 1966, ainsi qu'à la suppression de l'obligation d'imprimatur pour ce type d'ouvrage en 1975. Voilà la réponse à la commission doctrinale des évêques de France, dirigée par l'évêque de Cahors, dont j'ai oublié le nom, Monseigneur Camiade. Voilà. Alors, première raison, la catholicité de Marie Valtorta. Deuxième rappel, le contexte de la mise à l'index, vous l'avez entendu. Troisième rappel, le courrier de Monseigneur Theta Manzi. Le 6 mai 92, il autorisait la lecture de l'œuvre. Vous entendez bien, il autorisait la lecture de l'œuvre. Pour le bien des lecteurs et dans l'esprit d'un authentique service à la foi de l'Église, de déclarer simplement dans les pages que les visions et les dictées reproduites peuvent être considérées d'origine naturelle, surnaturelle, mais comme simple forme littéraire. Voilà ce que demandait Monseigneur Theta Manzi, qui était président de la conférence épiscopale des évêques d'Italie, quand même, je vous le rappelle. Ce n'est pas un petit prêtre perdu dans la campagne du coin, même si les prêtres leur doivent beaucoup d'estime, évidemment. Mais je parle au niveau de l'autorité de l'Église, sans vous estimer tous les prêtres qui sont les saints de Dieu, les fils de Jésus, ces fils de prédilection, et bien au-dessus de nous-mêmes. Donc, Mgr Teta Panzi, vous voyez, et tout cela, encore une fois, omis par notre commission doctrinale des évêques de France. Mais c'est pas possible, c'est volontaire. C'est une omission qui devient un péché d'omission. C'est énorme. Quatrièmement, précision. La fondation héritière confie la publication des écrits de la Torta donc à l'éditeur. Hein. Voilà. Etc. Voilà, je vous passe les détails, c'est moins intéressant après. Voilà, je vous rappelle, hein, tout cela, c'est la défense, l'apologie de l'œuvre de Mgr Torta par la fondation héritière de Mgr Torta, qui est très très bien faite, qui est résumée, qui est condensée à travers cette petite article qu'on trouve dans le Chrétien Magazine de novembre 21, hein, que vous trouvez gratuitement sur Internet sur le site des éditions Mgr Torta France. Hein, vous saisissez éditions Mgr Torta France et vous trouvez tout cela. Ces articles qui peuvent bien vous aider à convaincre s'il est possible, à faire connaître l'œuvre autour de vous, parmi vos prêtres, vos autorités religieuses, vos conseils paroissiales, éventuellement épiscopales, médias, etc., qui pourraient dire « bah non, l'œuvre a été mise à l'index, elle est interdite de la lecture ». Pas du tout, du tout, du tout. Ou plutôt, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et bien d'autres autorités se sont prononcées en faveur de l'œuvre. Vous savez, ces positions de l'Église contre la mystique et la révélation privée en général, qui, il faut le dire, partent plutôt d'un préjugé, d'un préjugement, que d'une conclusion à l'issue d'une commission et d'un travail et d'une enquête, comme il devrait être fait devant Dieu. Ces gens-là auront à répondre devant Dieu, comme tout à chacun et comme moi-même. Si nous faisons les choses à moitié sur des choses aussi importantes, il vaut mieux se taire. Prenons-le pour leçon. Eh bien, font beaucoup de tort à l'œuvre. Tout cela fait beaucoup de tort à l'œuvre parce que nous entendons régulièrement, et peut-être vous aussi, chers auditeurs, vous entendez autour de vous, j'ai entendu encore aujourd'hui même, nous avons un flux de témoignages ici aux éditions Mgr Torta, à notre revue Chrétien Magazine, ou par le biais de l'association Mgr Torta, hein, que je préside ici et qui permet de dispenser les différentes conférences un peu partout en France. Eh bien, nous avons un flux de témoignages et aujourd'hui encore, nous avons entendu une personne qui m'a dit « une sœur religieuse, amie, écoute Mgr Torta tous les jours, parce que vous savez qu'elle est en audio, c'est très pratique, hein. Eh bien, elle est heureuse, elle est enchantée, ça lui fait du bien. Et elle dit à cette amie, mais dites-le pas, hein, ne le dites pas, hein, parce que mon prêtre, mon entourage, comme il croit que cette œuvre est interdite à la lecture, eh bien, je vais en pâtir. Vous vous rendez compte où nous en sommes ? Un tel trésor, et les lecteurs sont comme des parias, ils sont comme des. Ils doivent se cacher de certaines autorités, de certaines communautés. Alors que l'abbé Pierre Lefebvre, par exemple, spécialiste de saint Thomas d'Aquin, affirme que dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, la Somme théologique, on trouve les enseignements, évidemment, complets. Le plus complet d'après l'Église, qu'il a déterminé comme le docteur des docteurs, le docteur angélique, les plus complets dans l'Église sont dans la Somme de saint Thomas d'Aquin, et l'abbé Pierre Lefebvre affirme que dans l'œuvre de Mgr Torta, on a la même qualité d'enseignement, la même, on va dire, la même profondeur théologique et une supériorité spirituelle, mais l'œuvre est narrative. Et c'est la force de Mgr Torta, c'est-à-dire que Jésus lui montre sa vie publique. Jésus lui montre les évangiles, les quatre évangiles canoniques que nous avons en tout petit bout, en tout petit récit de quelques lignes à chaque unité narrative, quelques lignes, quelques dizaines de lignes pour les plus importants, les rares plus importants, eh bien, parce qu'à l'époque, il fallait noter sur des tablettes de cire, hein, eh bien, dans les années 40, hein, où Maria écrit, on a du papier, on a des crayons, et Jésus et la providence de Dieu estiment que c'est le moment, dans ce début de troisième millénaire, là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est le moment de donner l'évangile dans une vision beaucoup plus plénière, beaucoup plus importante, le même évangile, chers auditeurs. Il ne s'agit pas de s'éloigner des évangiles, bien entendu. Alors là, nous serions coupables, puisque saint Paul a rappelé évidemment que la révélation se termine plutôt que les théologiens sont d'accord que la révélation publique se termine avec Saint Paul, évidemment, il ne s'agit pas de compléter cette révélation, d'inventer de nouvelles notions, mais il s'agit bien de l'Évangile, et rien d'autre. Voilà, donc cette petite parenthèse hein, pour nous rappeler donc un petit peu le contexte ecclésial et hiérarchique en France, qui est quand même, tous les auditeurs l'accorderont, très très timide. La hiérarchie française est quand même très très timide, pour ne pas dire parfois dans certains cas coupable de tiédeur, quand c'est pas plus sur certains points. Je n'accuse absolument personne, je parle de notion, hein, faites bien la distinction. Et nous sommes les premiers responsables de cela. Prions à la messe au pied de l'autel le plus souvent possible à cette intention. Hein, c'est la prière des fidèles qui mérite ses chefs aussi, il faut le savoir, d'une certaine manière. Jésus l'enseigne dans l'œuvre de Valtorta, hein. Ça ne vient pas toujours d'en haut. Donc continuons et redoublons de ferveur pour cela. Et puis, nous pouvons aussi compter sur beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'Esprit Saint, les fidèles qui sont éclairés et qui se disent eux-mêmes sauvés de leurs vices, parfois, et très souvent, par la lecture de Valtorta. Alors j'en viens à la troisième partie de ma petite émission. C'est des extraits de l'œuvre. Alors vous qui connaissez, vous allez retrouver certainement les choses que vous avez déjà entendues. Et vous qui découvrez, écoutez bien. Alors maintenant, on rentre dans le sujet. Hein. Le reste, les petites discussions, c'est finalement pas important. La question, c'est qu'est-ce que Jésus a dit dans cette œuvre de Maria Valtorta. Donc vous savez, le principe des visions de Maria Valtorta, c'est qu'elle se retrouve en situation complètement en immersion totale, dans une scène, elle sent les odeurs, elle sent même le vent sur son visage, elle voit Jésus, elle voit tout ce qui se passe autour. Et évidemment, Jésus rencontre des personnages et ça débouche sur des guérisons, sur des bienfaits de notre Seigneur, évidemment, sur des enseignements, aussi sur des accusations. Parfois, Jésus accuse fortement les pharisiens qui ne veulent pas se convertir, et Jésus explique pourquoi il le fait, c'est pour tenter de secouer leur âme, hein, qui se complaît dans la négation de l'enseignement que le Verbe incarné lui-même essaie de donner à ses créatures. Alors, j'ai retenu aujourd'hui deux petits sujets. Le premier, c'est la luxure. On entend parler de cela. Il s'agit, dans un terme un peu plus compréhensible, la sensualité. Jésus enseigne sur de nombreuses, nombreuses notions, toutes les notions théologiques et spirituelles qu'on peut trouver dans tous les écrits spirituels, évidemment, puisqu'il en est la source. Et évidemment, il y a un péché très répandu aujourd'hui, c'est tout ce qui pousse à la sensualité. Les images, les pratiques, les mœurs, les lois, malheureusement, etc., etc., font descendre l'humanité, comme dit Jésus, dans l'abîme sur ce plan. Hein. Nous sommes au bord du gouffre, c'est la chute, c'est la destruction de la famille, bon voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et Jésus dénonce la sensualité. Écoutez bien, cela pour nous aider, nous stimuler, nous chrétiens, nous luttons contre les trois concupiscences, bien entendu, hein, la sensualité, l'égoïsme et l'orgueil. Eh bien, là, il s'agit de la première. Et donc, Jésus donne des paroles qui vont nous stimuler, nous chrétiens, et qui vont peut-être interpeller des auditeurs qui auraient des pratiques ou des vices contraires. Voilà. Alors, Jésus commence d'abord le décalogue. Alors là, je prends un extrait au chapitre 123, paragraphe 3 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Jésus commente le décalogue. « Tu ne commettras pas d'impureté. » Donc, un des 10 commandements, donc très important pour nous. Il dit « Et puis, oh, dites-vous sur tous les hommes, qui d'entre vous n'a jamais goûté ce pain de cendre et d'ordure qu'est la satisfaction sensuelle ? N'y a-t-il de luxure que celle qui vous pousse pour une heure dans les bras d'une courtisane ? N'est-ce pas de la luxure aussi, le mariage profané avec l'épouse, profané car le vice est légalisé en étant une satisfaction réciproque des sens, en évitant les conséquences, tout en évitant les conséquences. » Alors on voit très bien à quoi Jésus fait allusion, et vous voyez, je le répète, une satisfaction des sens, qui elle n'est pas mauvaise, mais tout en évitant les conséquences. Là c'est grave. Et vous voyez, ce que Jésus dénonce, évidemment, c'est notamment la contraception aujourd'hui et toutes sortes de formes d'union qui refusent les conséquences. très important pour nous. C'est la première leçon pour les couples, pour les parents, vous voyez. Hein. Voilà, il faut rétablir, si c'était perdu chez nous, cette intention profonde. Un autre passage, toujours pareil, dans le chapitre 123, au paragraphe qui suit, Jésus parle du rapport sexuel qui a le plaisir pour finalité. Vous voyez, que le plaisir comme finalité. C'est une forme de prostitution, dit Jésus. Aux femmes volontairement stériles, il explique, épouse légale et honnête, non pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux du monde. Vous voyez donc que malgré cela, vous pouvez être comme des femmes vendues et commettre également l'impureté tout en étant avec votre seul mari. Parce que ce n'est pas la maternité, mais le plaisir que vous cherchez, et bien trop souvent. Alors j'espère, chers auditeurs, que cet enseignement de Jésus nous aide, vous aide. Hein, il faut chercher autre chose, je parle pour les gens qui sont mariés, évidemment, hein, pas les consacrés qui nous écoutent, mais les consacrés, évidemment, peuvent boire cet enseignement pour le redonner à leur tour. Dans l'œuvre de Valdorta, évidemment, on trouve toutes sortes d'enseignements sur tout domaine, et bien entendu, des sublimes aussi pour les consacrés, les vierges, la virginité, pour la question, et bien d'autres sujets pour cette question de cette première concupiscence. Et bien d'autres, évidemment, sur la charité et sur l'humilité. Ne réfléchissez-vous pas que le plaisir est un poison que l'on absorbe, de quelques bouches contagieuses qu'il vienne, qui brûle d'un feu, qui, croyant se rassasier, se pousse hors du foyer et dévore toujours plus insatiable, laissant une âcre saveur de cendre sur la langue, de dégoût, de nausée, de mépris de soi-même et de son compagnon de plaisir, parce que quand la conscience se réveille, et elle se réveille entre deux fièvres, il ne peut naître que le mépris de soi-même, qui s'est soi-même avili au-dessous de la bête. Eh bien, figurez-vous, chers auditeurs, que j'ai pris une petite note là. On a un enseignement de Jésus qui nous révèle quoi ? Qu'il y a un dégoût de soi-même quand on tombe dans la sensualité. Qui n'est pas tombé dans ce péché, d'une manière ou d'une autre ? Eh bien, finalement, cette chute peut être la source de dépression. Autrement dit, la dépression doit prendre racine dans ce vice. C'est Jésus qui le dit, un dégoût de soi-même, un mépris de soi-même. Vous voyez, c'est ça la dépression. On ne s'aime plus, on n'aime plus rien. Hein, laissant une âcre saveur de cendre, etc. Voilà, et le mépris de soi-même, dit Jésus. Vous voyez ? Eh bien, donc nous avons un remède. Quelle grâce ! En luttant contre la sensualité, en faisant des efforts pour la chasteté, adaptée aux différents modes de vie. Une chasteté conjugale n'est pas la même qu'une chasteté d'un consacré. Et en travaillant et en faisant des sacrifices et des prières dans cette intention, en luttant, il y a l'exemple des saints et de nombreuses choses qui sont proposées, eh bien, nous retrouverons une joie de vivre progressive. Voilà, chers auditeurs, vous voyez, un tout petit enseignement de Jésus et qui donne un vrai programme de vie. Un vrai programme de vie pour, en tout cas, ceux qui seraient tombés dans cette forme de péché. L'Église nous enseigne et les conseillers spirituels nous disent que nous avons tous des péchés dominants selon nos natures, selon notre héritage. Eh bien, voici ici une piste de guérison pour celui-ci, etc., etc. Voilà. Je passe à la deuxième sujet que je vous avais promis de traiter. Alors, évidemment, vous trouverez dans le dictionnaire de l'Évangile selon Valdorta, qui n'est pas encore sorti, hein, puisqu'on est en discussion encore avec la Fondation héritière Ma Valdorta, qui dispense, qui permet, qui autorise et qui encourage la diffusion de l'œuvre de Valdorta à travers tous les travaux différents. Et donc, il sera disponible au public, on va dire, au courant 2022, très probablement. Voilà. Et nous avons donc bien d'autres sujets, évidemment. 7000 thèmes traités, hein, que Jésus a expliqué, a donné à travers sa doctrine, ses enseignements, les réponses auxquelles les gens, aux questions que les gens lui posaient, etc., dans différentes situations, et qui ont été réordonnées à travers ce dictionnaire, hein, de l'Évangile de Valdorta, qui a fait l'objet de 3 ans de travail par un prêtre, un séminariste et un couple. Voilà, pour information. Et donc, eh bien, nous avons un autre sujet qui est la famille. Très très beau sujet aussi. Alors Jésus, évidemment, parle de nombreux endroits dans l'œuvre de Valdorta, que ce soit pendant sa première année, deuxième année, troisième année de la vie publique, hein, cet magnifique tableau des évangiles que l'on découvre, eh bien, sur la famille, évidemment. Alors, je vais vous prendre quelques extraits. Au chapitre 36, paragraphe 7, à propos de la Sainte Famille, Jésus dit à Valdorta, « La leçon pour toi et pour les autres t'est donnée par ce que tu vois. Une leçon d'humilité, de résignation, de bonne harmonie, proposée comme exemple à toutes les familles chrétiennes et surtout aux familles chrétiennes de ce moment particulier et douloureux. » Et il parle de nos siècles modernes. Alors évidemment, quand on voit la désagrégation de la famille, on va dire même ces toutes dernières années, qui ne connaît pas des gens qui divorcent, ou qui sont divorcés, ou qui n'est pas lui-même ou elle-même, peut-être parmi les auditeurs, victime, ou doit subir une séparation parmi nous. Donc voilà. Donc nous retrouvons, chers amis, notre chemin de guérison, quelle que soit la situation, en contemplant la Sainte Famille. En contemplant la chasteté dans le Nouvel Attentat, c'est magnifique, la chasteté de Joseph et de Marie. Évidemment, virginité dans leur cas, mais qui doit inspirer la chasteté des couples. Évidemment, pratiqué de manière différente. Mais dans tous les détails des visions, on a des appuis sur cette question. Quand on voit la générosité de la Sainte Famille, c'est édifiant. Il faut contempler dans les visions de l'Attentat tous les détails. On a les discussions entre Marie et Joseph. On a la rencontre de Joseph et de Marie. Nous contemplons, quand ils se mettent en ménage, quelles précautions ils prennent à tous les niveaux, quelle tournure de cœur ils décident ensemble pour honorer Dieu, l'aimer bien plus que les autres, puisqu'ils l'ont comme enfant, et comment ils veulent le donner au monde, et par quel déchirement, après la mort de Joseph, d'ailleurs, Marie nous édifiera pour donner Jésus au monde. Est-ce que nous devons faire comme exemple de la Sainte Vierge, sur l'exemple de la Sainte Vierge, comment nous devons redonner Dieu au monde, hein? Et dans notre situation, quelle qu'elle soit, elle quand elle était épouse et elle quand elle était veuve. Et nous trouverons, à travers l'exemple de Joseph et de Marie, quelle que soit notre situation, des points particuliers que nous pourrons imiter. La paix dans la pauvreté. Encore un autre passage qui est repris par ce dictionnaire de l'Évangile selon Maltortin, de différents thèmes, c'est parmi les 7000 thèmes qu'il traite. Jésus parle de la Sainte Famille en Égypte. Tu as vu une pauvre maison. Ce qui est pénible, une pauvre maison dans un pays étranger. Joseph et Marie ne possédaient, moi, le vrai Dieu à travers leur fils, et pourtant, ils n'eurent même pas la pauvre satisfaction d'être pauvres, oui, mais dans leur patrie, dans leur village où ils étaient connus, au moins ils auraient eu une petite maison à eux, où le souci du logement n'était pas une hantise à ajouter à beaucoup d'autres. Dans leur village où, puisqu'ils étaient connus, ils étaient plus faciles de se procurer un travail et de pourvoir à la vie. C'est à cause de moi que ce sont deux réfugiés. Un climat différent, un pays différent, si triste en comparaison de leur douce campagne de la Galilée, une langue différente, des mœurs différentes, au milieu d'une population qui ne les connaît pas, donc l'Égypte, et qui a la méfiance habituelle que les populations ont pour les réfugiés, les inconnus. Ils sont privés de meubles confortables, de leur petite maison, de la leur, qui leur sont chères, ils sont privés de beaucoup de petites choses humbles et nécessaires qu'il n'y avait là-bas, et qui ne paraissaient pas si nécessaires, tandis qu'ici, dans ce dénuement qui les entoure, elles semblent même belles, comme le superflu qui rend délicieuses les maisons les plus riches. S'ils ajoutent la nostalgie du pays, le souci des pauvres affaires, etc. Jésus continue à commenter, hein, c'est très très beau, cette abnégation de la Sainte Famille, hein, et Jésus le dit à cause de lui, et auquel Joseph et Marie, évidemment, s'unissent de toute leur volonté, de manière héroïque, pour sauver Jésus de la mort, de la haine d'Hérode. Voilà. Donc, vous voyez, un commentaire sur la Sainte Famille, hein, c'est très beau. Après, Jésus continue, je passe des dizaines de lignes, dans d'autres passages que donne ce dictionnaire, hein, chapitre 36. « C'était une maison où l'on priait, on prie trop peu dans les maisons à présent, dit Jésus. Le jour se lève et la nuit tombe, on commence le travail et vous asseyez à table sans une pensée pour le Seigneur qui vous a permis de voir un nouveau jour. » Alors nous, chrétiens, que cela nous motive à faire nos bénédicités. Jésus poursuit, de pouvoir arriver à une nouvelle nuit qui a béni vos fatigues et permis qu'elle vous devienne le moyen de vous procurer de la nourriture, du feu, des vêtements, un toit, toutes les choses nécessaires. Voyez donc, nous, famille chrétienne, nous chrétiens, ne nous couchons pas sans faire une prière, ne nous levons pas sans commencer par nous adresser à Dieu, offrir notre journée à Dieu, prendre des temps de prière. J'ai entendu un prêtre dernièrement qui disait cette belle phrase, toute simple, peu de prière, peu de fruits, beaucoup de prières, beaucoup de fruits. Vous voyez, Jésus parle dans le Nouvel Attentat, évidemment, à répétition de la prière. Très très belle leçon sur les fruits de la prière, sur les moyens d'exaucement de la prière. C'est d'autres sujets qui sont encore traités dans ces dictionnaires. Je rappelle une chose que je dis parfois, vous avez peut-être entendu dans cette émission, mais le secret d'une prière exaucée, quel est-il, dit Jésus, il le dit, une prière accompagné de sacrifices, est toujours exaucée. Citation de Jésus dans la Nouvelle Torah. Vous entendez bien, une prière accompagnée de sacrifice, qui peut être au pluriel, sacrifice, est toujours exaucée. Après, Dieu exauce à sa manière. À sa manière, parce qu'il veut, lui, à tout exaucement, il veut la fin ultime de l'âme, c'est-à-dire le salut éternel. Donc il ne veut pas que la demande de la personne soit forcément satisfaite, parce qu'il sait si cette demande est bonne ou mauvaise pour son salut éternel. Mais les prières sont toujours exaucées à cette fin. À cette fin. Donc, ne nous le paraissent pas toujours visiblement, mais le sont invisiblement, certainement. C'est ce que Jésus enseigne. Donc, ne nous décourageons pas et continuons à prier pour les nombreuses personnes qui nous entourent et pour nous-mêmes, peut-être pour ceux qui sont dans la grosse difficulté et qui écoutent cette émission. Jésus, vous entendez bien, exauce toujours les prières accompagnées de sacrifices. Alors, sacrifice, alors, il faudrait aller voir dans le dictionnaire tout ce que veut dire sacrifice. Il ne reste que 3 minutes dans l'émission, on le traitera une autre fois. Je le note, c'est très très beau, évidemment, il y a les renoncements, il y a aussi les abnégations volontaires, et il y a surtout l'acceptation des choses qui tombent et qui ne sont pas drôles tous les jours, chacun vit ça. Je ne vous donnerai pas de détails personnels. Je termine avec cette émission avec la mention, comme promise, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, adapté en bande dessinée. Il vient de sortir sur le commerce, vous le trouvez dans toutes les librairies, Ictus, le 5e tome de l'adaptation de Marie Tantar en bande dessinée. C'est absolument merveilleux. J'ai eu encore aujourd'hui même, vous voyez, tous les jours, on a des témoignages. Je peux en citer quasiment dans tous les domaines. Une personne qui m'a dit quoi, que c'était très beau. Très très beau, pourquoi? Ah oui, les couleurs, que c'est beau les couleurs dans la dernière BD de Valtorta, et tout le monde est unanime. Ah non, c'était hier, c'était une amie et collaboratrice qui témoignait de ses réactions de ses enfants devant les bandes dessinées Ictus, l'adaptation de Valtorta. Et nous avons dans cette 5e tome la conversion de Mathieu, c'est très beau, extrait évidemment de la vision de Valtorta, évidemment qui corrobore une fois de plus comme les évangiles canoniques, hein. Mais on a les détails, vous savez peut-être, alors c'est très beau, j'ai les paysages devant moi, ces planches de bande dessinée, hein, très colorées, qui racontent la rencontre, donc Jésus et les apôtres tombent dans le village de Matthieu, j'ai oublié, je ne sais pas très bien où c'est, je devrais le savoir, mais voilà, et ils retombent devant ce comptoir, hein, et Jésus s'arrête devant lui et lui dit « Viens Matthieu, suis-moi ». Et alors, Matthieu est interpellé, et Jésus dit « Oui, je prierai pour ton âme ». Et en fait, ce Mathieu avait déjà fait des dons nombreux au groupe apostolique d'une bourse bien pleine par un petit enfant qui est donné de manière anonyme. Évidemment, Jésus, qui était Dieu, savait qui c'était. Et Mathieu se préparait finalement à donner toujours plus jusqu'à donner sa vie. Jésus l'appelle à un moment donné et il devient cet apôtre évangéliste exemplaire à qui on peut confier en ce jour l'intercession pour la diffusion de l'œuvre de Valtorta. Et en particulier aux trois ramages, puisque en cette fête de l'Épiphanie, nous pouvons demander à ces rois mages, lisez dans l'œuvre de Valtorta la vision et les rois mages, c'est absolument fabuleux, splendide. Quand ils vont à Nazareth, d'après l'œuvre de Valtorta, évidemment, quand ils ont vu Jésus, il avait presque un an, il marche déjà presque en tenant la main de la Sainte Vierge. Les enseignements sont splendides de la part de notre Seigneur aussi, qui commande ses visions en disant que ce qu'offrent les rois mages, ce à quoi ça doit nous pousser à offrir auprès de Dieu, l'adoration, la bienveillance, la générosité et aussi les abnégations nombreuses qui jalonnent notre vie. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée, une sainte année 2022, et toujours partant, si vous voulez des nouvelles, vous écrivez à l'association Maria Valtorta, vous pouvez téléphoner au 05 65 78 01 95, les éditions 05 65 78 01 95, les éditions Maria Valtorta France, pour tout détail, toute précision, pour les plannings de conférences, vous renseignez sur Internet, pour les nouveautés, eh bien, vous nous envoyez un mail, et puis on vous le fera part gracieusement de toutes les nouveautés, ou vous vous abonnez à Chrétien Magazine, qui en général, dans lequel s'agglomèrent toutes les informations concernant Maria Valtorta.
Bruno Périnet, un grand merci et encore une fois beaucoup de fruits, donc beaucoup de prières en cette nouvelle année.
Oui, espérons-le. Merci Olivier.